Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour et bienvenue au chaudron des découvertes. Bonjour Léo, contente de te revoir. Alors, pas de chance, hein. L'émission que j'ai préparée pour aujourd'hui, ça va piquer. Ça va piquer, pourquoi ? Je vous explique. Il y a déjà 3 ans, dans le cadre d'une émission appelée « L'eau à la bouche », je vous avais parlé des effets délétères des réseaux sociaux, notamment en vous citant un roman, « Elle a menti pour les ailes » de Francesca Serra, et un essai « L'enfer numérique voyage au bout d'un like » de Guillaume Pitron. Et voilà, je reviens sur le sujet aujourd'hui, histoire de se rappeler quelques faits. Une petite piqûre de rappel en somme, et aïe, ça fait mal. D'abord, 2 petites anecdotes. Après tout, si des personnes, attention, je parle d'adultes, hein, si des personnes veulent s'abrutir devant les écrans et s'extraire du monde des vivants, c'est un peu leur problème. Sauf qu'aujourd'hui, notre vie quotidienne est cernée par l'informatique. Tiens, un exemple. Vous voulez changer votre permis de conduire qui, vu son âge et le vôtre, commence à battre de l'aile. Enfin, le permis, pas vous quand même encore. Eh bien, si vous n'avez pas d'adresse mail et un portable, point de salut, impossible. Autre chose, vous voulez vous balader, faire du camping en total impro, dans le genre « Tiens, un petit coin sympa à découvrir, allez, on s'arrête !» Eh bien, si vous n'avez pas fait votre réservation sur Internet, ça ne va pas le faire, même si vous appelez le camping en question. Bon, heureusement, il reste quand même quelques vrais campings sympathiques et nature qui ne sont pas des hôtels de plein air. Je vais donc vous évoquer un certain nombre d'articles et d'ouvrages en essayant de ne pas être trop indigeste, car quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, j'ai réalisé à quel point le thème était d'actualité et convoquait un nombre considérable de publications. Mais avant, petit rappel. Dans la revue Silence de janvier 2020, il y avait un article sur la question de la fabrication des smartphones. Très visuel, il y a un schéma qui décline la liste des métaux rares présents dans un smartphone. Allez, on y va. Dalle tactile et vitre, 5 métaux. Écran, 13 métaux. Batterie, 8 métaux. Boîtier, 6 métaux. Carte, 9 métaux. Et on arrive plus ou moins à 41 métaux, avec quelques doublons, mais qui de toute façon existent dans chaque composant. Et voici ce que dit l'article. Dans le meilleur des cas, 20 métaux sont recyclés sur un smartphone et 15% des smartphones sont recyclés. Et là, nous sommes en 2020. Or, le recyclage devient difficile au fil de l'augmentation du nombre de métaux présents dans un composant et de la diminution de leur concentration. Eh bien, ça ne s'est pas amélioré, vous verrez tout à l'heure. Toujours en 2020, Hervé Krief, dans son livre « Internet ou le retour à la bougie », nous disait ceci. Le nombre de connexions à l'Internet a été multiplié de façon extraordinaire et impensable en quelques années. Nous atteignons des chiffres mirobolants qui ne signifient rien d'autre que la perte de la notion de condition humaine. Et il n'y a plus aucune relation entre cette démesure et nos capacités physiques et intellectuelles. Nous ne pouvons plus penser le monde tel qu'il a été transformé par la société industrielle et l'Internet. Nous ne pouvons plus nommer le monde. Toute la maîtrise que nous pouvions avoir sur lui et sur nos vies est désormais transférée à la machine. Alors, un petit peu plus loin, que dit-il ? Comment fonctionne l'Internet ? Un peu comme l'eau courante et beaucoup comme l'électricité. L'Internet semble relever d'un processus magique. On appuie sur un bouton, on tourne un robinet, on allume sa tablette et le miracle se produit. Voici encore une des réussites incontestables du monde capitaliste. Sa propension à dissimuler, à mettre hors de notre vue, toutes les infrastructures et tous les milliards investis dans la mise en place physique et concrète d'une société technicienne. Dernier petit extrait. Cette omniprésence des écrans a supprimé les corps. Elle a supprimé la raison, la pensée autonome, l'émotion de la découverte, la sensation, le désir. Les sens sont désormais étiolés, anéantis. Seule l'addiction à la machine permet de jubiler. Alors, certes, on peut penser qu'Hervé Krief est excessif et diabolise les choses. Mais continuons. En 2022, Emmanuel Lambert, de la compagnie Bulle de Zinc, basée en Loire-Atlantique, avait fait une tournée en stop en France et était venu en Lozère, et notamment à Florac, pour son spectacle « Requiem pour un smartphone », où il pose la question de l'extraction. Je cite Emmanuel Lambert. « Cela part d'un smartphone, celui d'Amina, autour duquel gravitent trois personnages. Chacun va délivrer son récit de vie qui le lie à cet objet. Depuis l'esclavage dans les mines du Congo, jusqu'à l'amour inconsidéré d'un homme pour cette jeune femme pleine de colère. De quoi questionner les conséquences de la surnumérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre tendresse, rage et poésie. Un spectacle choc, vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant. Eh bien, en 2025, le spectacle tourne toujours. Et entre autres, en novembre, il sera à Lyon, à Die, à Valence. Comme quoi, il y a des sujets qui ne s'épuisent pas. En 2023, Yves-Marie de l'association Lève les yeux, dans son livre numérique « On arrête tout et on réfléchit », renchérit. Gardons l'exemple du smartphone pour en faire une petite idée du coût environnemental de l'avant. Quel est le coût de fabrication de cet objet? L'association Ingénieurs sans frontières nous indique le nombre de métaux rares concernés grâce à une carte interactive mise en ligne par l'association SysTex. Une soixantaine pour un total de 70 kg de matière nécessaire sur toute la vie de l'objet, de sa conception à son recyclage. Bon, on n'est plus à 41, là, on est déjà à 60. Et puis, Léo, dis-nous ce qui se passe à Crawl.
Ainsi, à Crawl, en Isère, l'entreprise ST Microélectronique, championne des puces électroniques, aussi appelée semi-conducteur, consomme plus de 200 litres d'eau par seconde, soit l'équivalent de la moitié de la consommation des habitants de Grenoble. Les habitants du Grésivaudan, qui ont longtemps disposé de l'une des meilleures eaux du monde, en sont réduits à acheter des bouteilles d'eau en plastique en été, car non seulement l'eau est prélevée, mais elle est de plus en plus polluée.
Alors oui, tout ça parle de la fabrication. Mais bien sûr, il y a les autres dégâts. Michel Démurger, neurobiologiste à l'INSERM, qui avait commis en 2019 la fabrique du crétin digital, récidive en 2023 avec l'ouvrage « Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital ». C'est un scientifique et dans son premier ouvrage, il y avait un chapitre important où il citait très précisément ses sources et les recherches expérimentales qui avaient été menées afin de ne pas être taxé de propos impressionnistes. Voici ce qu'il dit dans son ouvrage de 2023. Nombre d'activités affectent favorablement le déploiement cérébral, dont l'art, le sport ou la musique. Aucune, cependant, n'a d'impact aussi décisif que la lecture. Cette dernière agit massivement sur le développement intellectuel à travers le langage, les connaissances générales, la concentration, la créativité, les capacités de synthèse et d'expression orale. Mais ce n'est pas tout. Des effets solidement documentés sont aussi observés sur les régulations émotionnelles, l'empathie ou la compréhension des autres et de soi-même. Dans l'émission « Grand bien vous fasse » sur France Inter, le 27 septembre 2023, il enfonce le clou en affirmant que les études montrent qu'un enfant apprend mieux devant une personne que devant un écran. Il explique qu'un cerveau d'enfant ne réagit pas de la même façon dans les deux situations. Et il prend l'exemple d'un bébé, de 9 mois, à qui on montre comment enlever un grelot d'une poupée. L'enfant le reproduira si la démonstration se fait avec une personne. Mais devant un écran, ça ne marche pas. Il fustige donc la numération intensive en milieu scolaire. Il dit que la Suède a fait marche arrière et des études réalisées depuis 20 ans montrent que les systèmes scolaires qui investissent le plus dans la numérisation de leur système voient leurs enfants moins progresser. Voilà, intéressant, n'est-ce pas? Surtout quand on sait le nombre d'ordi distribués dans certains lieux scolaires. Ce que dit Michel Desmurger sur les bienfaits de la lecture est confirmé dans un article du Monde du 22 octobre 2025 intitulé à propos de la lecture, sur papier ou sur écran, match serré. Avec un livre papier, on est plus actif. On le tient en main, on tourne les pages, on mémorise mieux la structure, on peut revenir en arrière plus facilement, abonde la neuropsychologue Sylvie Chocron, collaboratrice régulière du Monde. Ce constat est renforcé par une méta-analyse de chercheurs espagnols et israéliens portant sur 54 études comparant la lecture numérique, ordinateur, tablette, smartphone, liseuse, et la lecture imprimée sur un échantillon de 171 000 lecteurs. Résultat, les lecteurs sur papier avaient globalement des scores de compréhension légèrement supérieur. Bien. Ainsi, il y a peu de différence entre le papier et l'écran pour un texte simple, mais plus le texte devient complexe, plus le papier devient facilitant, résume Michel Desjormais dans cet article. Et puis, ce ne sont pas seulement les effets éducatifs, psychopédagogiques ou psychologiques. Un article de décembre 2023 dans la revue « L'âge de fer » parle de la lumière bleue. Une chercheuse, Alicia Toriglia, s'est penchée sur l'œil. Oui, je parle bien de l'œil. Aujourd'hui, la myopie concerne un jeune sur trois en France et près de 90% des jeunes en fin de parcours scolaire dans les zones urbaines des pays développés d'Asie. Les causes ? Le manque d'exposition à la lumière naturelle. Notre lumière est enrichie en bleu et appauvrie en rouge. La lumière bleue, ce sont les ondes comprises entre 500 et 460 nanomètres présentes dans les LED et donc les écrans. Il faut quand même le savoir. Au même titre qu'il existe un capital soleil pour la peau, il existe un capital lumière bleue pour la rétine. Alors, plus on est âgé et mieux on filtre. Mais le cristallin des enfants est pratiquement transparent, il ne filtre rien. Donc ici encore, pas de baratin, mais des études sérieuses. En fait, quand on commence à étudier de plus près toutes les conséquences d'un progrès technologique comme l'informatique, on arrive, par cercle concentrique, à devoir envisager un nombre incroyable de problèmes. La dépendance, le développement psychosocial, la santé physique et mentale. Et avant de poursuivre la liste, je vais vous lire un article du Monde d'octobre 2025. Écoutez bien. Pour bien démarrer votre semaine de travail, rien de mieux que de s'y mettre le dimanche à 18h. On vide la boîte mail, on prépare sa to-do list. Le lendemain, on pourra ainsi décliner le lundi et être super efficace. Vous terminez tard le travail, mais vous aimez tellement votre boîte que vous montez des meubles jusqu'à minuit et consacrez vos week-ends à peindre vos nouveaux locaux. De toute façon, le temps libre, ce n'est pas pour vous. Les vacances vous insupportent. Vous êtes obligé de passer du temps en famille et le business est en pause. Bon, je ne continue pas. Ceci n'est pas une fiction et ce ne sont pas les propos du Monde, bien sûr, mais le Monde relate des conseils professionnels dispensés sur LinkedIn. Cauchemardesque, non ?
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
Hey, hey.
Et donc, pour poursuivre la liste, il y a bien sûr l'aspect politique, la puissance des algorithmes, le marché de la surveillance. Dans cette idée d'une omniprésence des algorithmes dans notre vie quotidienne, la revue dessinée de l'hiver 2022-2023 y consacre un chapitre intitulé « Le code a changé ». Voici leur introduction. Il vous propose des playlists sur les plateformes de musique en streaming, de trouver l'âme sœur sur les applis de rencontre, de passer par telle route pour atteindre plus rapidement notre destination. Depuis 15 ans, les algorithmes se sont installés dans nos vies, et ce, qu'on le veuille ou non. Car de plus en plus de services publics s'en servent aussi à grande échelle, plongeant parfois les usagers dans le désarroi face à cette nouvelle main invisible. Et la BD, c'est donc l'histoire de Nadine, femme démunie et en plein marasme administratif avec la CAF et Pôle emploi. Et on y apprend que depuis 2011, la CAF utilise un algorithme pour déceler les facteurs associés à un risque élevé de fraude chez les allocataires. L'outil étudie un gros volume de dossiers, puis leur attribue des scores. Ceux qui ont un score élevé font l'objet d'un contrôle. Il y a également un encart sur Parcoursup qui, je cite la BD, qui en 2018 a plongé des centaines de milliers de bacheliers pour un grand saut dans le vide. Même bazar pour l'attribution des greffons humains du cœur, du foie ou du rein. Glaçant tout de même, hein. Pour Nadine, petite lueur d'espoir, elle va être aidée par l'association La Quadrature du Net. Dans le livre de Yves-Marie que j'ai déjà cité, il y a un chapitre intitulé « Application technique de captologie ». On peut évoquer, je lis le petit passage, on peut évoquer un autre mécanisme central de l'économie de l'attention, la science. Ce qui frappe l'esprit, ce qui bouge, ce qui choque et joue sur les émotions attire le regard bien davantage que ce qui est lent, terne, monotone. Une bagarre, un corps dénudé, un titre avec des points d'exclamation, un chaton trop mignon. Voilà des contenus conçus pour attirer l'attention. Ils sont massivement visionnés sur toutes les applications de YouTube à X, en passant par TikTok et Instagram. Pour finir cet aperçu des applications les plus addictives, on pourra se pencher sur la fameuse flamme Snapchat. Dans ce réseau social, les membres suivent des fils de conversation comme dans toutes les autres, sauf que sur le côté de la discussion apparaît une petite flamme accompagnée d'un chiffre correspondant au nombre de jours durant lesquels les messages ont été envoyés sans interruption. 24 heures de silence et la flamme s'éteint. Le feu de l'amour doit brûler ou mourir dans les cendres virtuelles. Alors Léo, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, cette petite flamme, mais là, ça date de 2023. Je ne sais pas ce qu'il en est. Enfin, surtout quand on a 14 ans et que l'on vit une idylle amoureuse ou amicale, il y a une certaine intensité. Les snaps quotidiens sont devenus des preuves d'amour, la fidélité monétisée. Bon, en fait, je crois que je pourrais vous lire le livre de Yves-Marie en entier. Mais le plus simple, c'est que vous l'empruntiez à la médiathèque de Florac. Mais je n'en ai pas encore fini pour tout vous dire. Quand j'ai commencé à me plonger dans ce fatras informatique, je me suis dit que c'était un peu gonflé de ma part, vu que finalement, à part envoyer quelques textos et des mails et consulter la météo, bon, et aussi préparer des émissions pour Bartas, mes connaissances se situaient à minima, d'autant que je devais absorber et comprendre plein de mots qui ne font pas partie de mon stock lexical. Et, bien sûr, entre autres, l'IA générative, intelligence artificielle générative. Alors, il paraît qu'on en parlait déjà en 2023, dans l'âge de fer de novembre 2023, je découvre un nouveau mot, ChatGPT. Dans ce numéro, le philosophe Michel Benassayag répond à la question « En quoi l'IA constitue-t-elle un danger pour l'humain ?» Il parle du phénomène de délégation de fonctions. C'est un mécanisme normal dans l'évolution des espèces pour les animaux comme pour les humains. Il existe des coévolutions. Il prend pour exemple les chiens, qui, en échange des restes alimentaires humains, vont aider ces derniers à la chasse, sauf que, pour les humains, la délégation vers la machine n'a pas apporté une évolution. Et il prend l'exemple dont tu vas nous parler, Léo, des chauffeurs de taxi.
En quoi l'IA constitue-t-elle un danger pour l'humain ? La clé de tout, c'est le phénomène qu'on appelle la délégation de fonctions, en l'occurrence entre l'humain, autrement dit le vivant, et l'intelligence artificielle. L'âge de fer pose la question. Pourquoi n'y aurait-il pas, à terme, de recyclage ? Grâce au GPS, le chauffeur de taxi n'a plus besoin de chercher sa route. Peut-être va-t-il ainsi pouvoir parler philosophie avec le passager qu'il transporte, et donc développer de nouvelles capacités intellectuelles. Le philosophe répond. J'ai justement travaillé sur le GPS avec deux groupes de nouveaux chauffeurs de taxi. Ceux du premier groupe commençaient à travailler à Londres, et ceux du second groupe commençaient à travailler à Paris. Les chauffeurs parisiens avaient un GPS, pas les londoniens. J'ai choisi Londres et Paris, car ce sont deux villes labyrinthiques qui nécessitent beaucoup d'attention pour se repérer et s'orienter. Contrairement au groupe des londoniens, les chauffeurs parisiens, au bout de 3 ans, présentaient tous des atrophies aux noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace. Voilà une délégation de fonctions très claire, une perte de la notion spatio-temporelle, puisque les chauffeurs se fiaient à leur GPS et ne faisaient donc plus ce travail. Quand tu te déplaces, il y a un rapport entre le temps, l'effort réalisé, les mouvements, les repères spatiaux, etc. Tout ça se perd. Et qu'est devenue la zone cérébrale ainsi libérée ? Rien. C'est ce que nous avons constaté. Il ne s'agit donc pas d'une question de technophobie. Il n'y a pas eu de recyclage. Les phénomènes de coévolution se font sur des millions d'années, alors que là, on délègue des fonctions de façon trop subite pour qu'il y ait un recyclage.
Tout le monde, il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre, photo sur Insta, c'est obligé. Sinon au fond, à quoi ça sert, si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer, si c'est de moi dont on va parler. Où j'oublie tout et je m'en vais, yeah. Moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches de sans sentiments. Au fond j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Tu penses à ce que vont penser les gens.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Mais tu les laisses tous indifférents.
Pour continuer, alors je suis vraiment désolée, hein, mais dans la sinistrose, dans l'âge de fer de l'été 2025, toujours, il y avait un article intitulé « Pourquoi il faut buter ChatGPT ?» Je vous lis quelques petits bouts. Alors que le numérique devait réduire ses émissions carbone de 5% par an jusqu'en 2030, pour respecter les accords de Paris de 2015, celles-ci ont augmenté chaque année d'environ 5%. C'était déjà mal engagé donc, mais voilà qu'aux dernières nouvelles, c'est pire que prévu. L'intelligence artificielle générative, rendue accessible au grand public, affole tous les compteurs de l'empreinte environnementale du secteur. Plus loin, un centre de données classique axé sur l'IA consomme autant d'électricité que 100 000 foyers. Mais les plus grands centres en construction aujourd'hui en consommeront 20 fois plus. Même pas besoin d'une assistance numérique hein, pour faire le calcul. 100 000 multiplié par 20, 2 millions. Et on parle bien de foyers et non d'individus. Les Amazon, Google, Microsoft et autres construisent actuellement des data centers dont chacun consommera autant d'électricité que 2 à 3 fois la population de Paris. Bon, pour finir, je vais évoquer un livre que je n'ai pas tout à fait eu le temps de lire, mais que j'ai quand même parcouru en diagonale. Je l'ai commandé à notre libraire floracoise suite à un article de Libération d'octobre 2025 et qui fait référence donc à cet ouvrage « Le désert de nous-mêmes » d'Éric Sadin aux éditions L'Échappée. Éric Sadin qui fut l'initiateur d'un contre-sommet de l'IA, oui, je l'ai bien dit, c'est dur à dire, hein, IA, intelligence artificielle, au moment du sommet mondial sur le sujet. Éric Sadin voit dans l'IA générative un tournant anthropologique majeur et très inquiétant de la condition humaine. Il pose la question suivante. Que va-t-il rester à l'humanité quand les assistés numériques que nous sommes délèguent totalement l'apprentissage, la création et la formation du savoir à des machines? Depuis novembre 2022, les êtres ont à leur disposition des instruments qui rendent presque caduques les attributs essentiels, à commencer par la capacité à formuler nos pensées, former du langage et à créer par nous-mêmes. Il assène. L'IA est le cheval de Troie du renoncement de nous-mêmes. Soumission des consciences, destruction d'emplois. Là encore, la liste est longue, mais par exemple, nombre de métiers de la culture se voient fragilisés. Par ces temps de menaces budgétaires, l'avenir de la culture se noircit sérieusement. Juste un petit exemple, pioché dans le livre d'Éric Sadin. Il évoque un jeune philosophe hongkongais qui, dans un livre qui, paraît-il, connu un succès important, développe l'idée que notre rapport au monde était avant tout placé sur le sceau de l'illusion. Tiens donc. Mais en y regardant de plus près, il apparaissait que le texte ressemblait, alors, dixit Éric Sadin, hein, je le cite, au cahier intime d'un adolescent de 2020 sous acide, avec surenrichissement de formules n'ayant pour but que de frapper les esprits, au ton péremptoire et se voulant définitive, comme pour recouvrir le terrible vide qu'elle charriait. Des journalistes voulurent interviewer ce philosophe. Eh bien, impossible, il n'existait pas, mais était le produit de deux philosophes italiens qui avaient eu envie de dialoguer avec ChatGPT pour lui faire cracher des concepts. Bon, je continue. Il y a un article édifiant dans l'Âge de fer de novembre 2023. C'est Match ChatGPT humain. En l'occurrence, Nicolas Bérard. Il fallait rédiger un texte de 4500 signes qui traitait de la différence entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Eh bien, je dois dire qu'au départ, le texte ChatGPT semble assez cohérent. Mais quand même, quand on lit le texte de Nicolas Bérard, on sent tout à coup la vie qui y reprend le dessus. Je le cite. Contrairement au journaliste de l'âge de fer, ChatGPT n'a jamais déniché une petite asso installée au fin fond du Gers, qui, parce qu'elle distribue des paniers bio aux familles démunies, qu'elle organise l'accueil des migrants ou qu'elle lutte contre un projet de méca-bassine, rend le monde meilleur. Allez, une dernière revue. L'Empaillé, de l'automne 2025, traite de l'informatisation à l'école et qui, entre autres, parle du logiciel Pronote. Alors, l'éducation, je le cite, hein, l'éducation nationale, prenant lentement conscience que tout n'est pas si rose au pays des ordis, tente de limiter les dégâts par de sporadiques séances de sensibilisation aux usages et dérives d'Internet. L'école fait néanmoins face à une contradiction majeure. l'informe sur les problèmes d'addiction et le harcèlement numérique, tout en favorisant l'hyperconnexion qui, quant à elle, accentue ces deux problématiques. Pour se passer de pronote, le collectif Colline propose sur son site un courrier type à adresser au personnel des établissements scolaires, ainsi que des documents permettant d'expliquer et d'argumenter cette décision. Soutien et ressources peuvent être trouvés auprès de l'association Lève les yeux et du collectif Écran Total. S'opposer au monde numérique et ses ravages, c'est déjà le refuser dès que possible, le questionner autour de nous et laisser les enfants tranquilles. Alors, enfin, encore l'âge de fer, bon, je récidive. Novembre 2025, s'émanciper de Microsoft. Microsoft, vous savez, la petite société humaniste qui ne fournira plus de mise à jour gratuite. Il faudra passer à la version nouvelle. 400 millions d'ordinateurs seront incompatibles dans le monde à cette version. Petite lueur d'espoir pour les non-geeks, dont je fais partie, Ordi Solidaire à Saint-Florent-sur-Ozonnée dans le Gard reconditionne de vieux ordi ou installe Linux sur votre PC. Allez Léo, raconte-nous la dernière blague.
L'âge de fer titre cet article « Inégalable bêtise humaine ». Ils ont hésité à vous parler de cette énergumène pour ne pas alimenter son business, mais la tentation était trop forte, car le type est vraiment trop drôle. Ne lui dites pas, il n'est pas au courant. Laurent Alexandre est sans doute la personne la plus interrogée sur l'intelligence artificielle, la plus exaltée, mais aussi celle qui raconte le plus de bêtises. Extrait de ce que ça peut donner lorsqu'il a dû répondre à cette question du Figaro. L'IA va-t-elle faire grimper le chômage ? Aucune inquiétude à avoir, assure notre transhumaniste le service. Car avec l'IA, nous ne sommes plus dans un monde décroissant, nous entrons dans un monde d'hypercroissance. Ouf, mais l'IA pourrait-elle se retourner contre l'humain ? S'inquiète le journal. Et Laurent Alexandre, de citer des étoiles plein les yeux, cette phrase absolument extraordinaire de Sam Altman, créateur de ChatGPT. Bien sûr, l'intelligence artificielle va nous supprimer, mais dans l'intervalle, nous allons créer des entreprises magnifiques. Nous voilà doublement rassurés.
Ah oui, alors ça c'est sûr. Allez, dernière info avant de vous quitter. Le 20 janvier, jour anniversaire de l'investiture de Trump, un collectif appelle à quitter les réseaux sociaux ensemble pour arrêter d'engraisser ces big tech et leurs patrons milliardaires. Le site appelé quitter-pykhw, je ne sais pas comment ça se dit. Allez, au revoir et à bientôt.
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.